Ce podcast est une présentation de l'entreprise de signalétique et d'affichage Bromard. Ne manquez pas mon nouveau segment au milieu de l'épisode. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reçois Bob le Chef. Bob est un des pionniers du YouTube québécois. Il a parti de l'anarchie culinaire selon Bob le Chef il y a plus de 10 ans et généré au-dessus de 3 millions de vues sur YouTube. Maintenant animateur de télé, a son propre podcast et a même son propre vin. Salut man, comment ça va?
Ça va bien.
Je suis vraiment content que tu sois là.
Dans ton intro, ouais. Elle est super bonne, mais j'étais là avant YouTube.
Ah ouais.
On a mis notre première capsule web 6 mois avant que YouTube existe.
Oh shit.
Ouais,
sur quoi?
Mon associé et sa femme, qui sont encore mes partners à jour dans l'anarchie culinaire, Mathilde et Alexis, j'ai salué. Il y avait une compagnie de production, Island Productions. Okay. Ils faisaient des films de skateboard.
Ah ouais.
Le skateboard dans leur vie était sur le déclin un peu, et moi la cuisine est en pleine ascension. On se demandait comment on pourrait matcher. En fait, c'est des webmasts aussi. Ils faisaient des sites web pour des petites compagnies. Okay. Ils en font plus, mais ils en ont fait pendant un bout.
Okay.
Et c'est ça, de là est venue l'idée de faire Bob le Chef sur Internet. Un soir, Mathilde a dit on devrait filmer Bob en train de faire de la bouffe. Et ils ont mis ça en format QuickTime à l'époque sur leur propre site de skate, qui est un forum de chat de skateboard. Et écoute, on a eu comme une centaine de commentaires de monde comme Chris. C'est bien hâte, le show hot à Bob, puis tout, on en veut plus. Puis, comme tout projet, quand le monde en demande, ça t'encourage.
Hey,
puis,
c'est vraiment hot. Mais c'est drôle parce que tantôt, je scrollais sur ta chaîne pour voir à peu près ça faisait combien de temps. Tu sais, puis là, je scrollais. Puis là, je scroll. Puis là, ça fait 10 ans, 13 ans. Je suis là, tabarnak. Puis là, j'ai checké une de tes premières vidéos. Man, c'est drôle. T'es genre couché sur un banc de parc avec plein de journaux dessus. Puis il y a quelqu'un qui a un bout de bois qui est comme, ah man, j'ai trouvé ça drôle. T'sais.
C'était une capsule le lendemain de brosse de la Saint-Patrick. Si je me trompe.
Ah ouais,
Puis on pouvait prendre n'importe quelle tonne. À l'époque, c'était cool. Le web, il y avait
l'intro.
Pas de droit
d'auteur. Ouais, ton intro, j'étais comme, qu'est-ce, as-tu mis ça à chaque
Jump
intro?
Around,
c'est fucking cool, ça. Puis je me disais, tu regardes-tu des fois tes vidéos pour le fun? Tes vieilles affaires?
Non. Moins qu'avant. Peut-être une fois de temps en temps, je monte à mon gars des affaires que j'ai faites. Mais c'est rare pour vrai. Là. Mais tu sais, à cette époque-là, on était vraiment inspirés par Rock et Belles Oreilles. C'était une grosse inspiration pour moi, là, les sketchs, les costumes. Puis je trouvais justement là, de mettre de l'humour dans la cuisine, ça déconstipait la chose un peu. Parce que moi, j'étais à l'ITHQ avec les toques blanches, foulard de chef. Je travaillais à des restos aussi quasi militaires. À l'époque, je voulais pas devenir Bob le Chef. Je voulais juste devenir Bob le Chef d'un restaurant quelconque à Montréal. Mm-hmm. Puis c'était vraiment ça mon but. Fait que je travaillais dans les bonnes tables à Montréal. Dans le but d'apprendre, mais à la fin des années 90, début 2000, c'était encore rough.
Je voudrais que tu me racontes ça parce que j'ai reçu un chef cuisinier qui est chef de l'hôtel Le Gault puis le Montville. Okay. Il s'appelle Fleurimont. Puis, tu sais, lui, il est très chef classique. Puis j'en ai parlé des chefs sur les réseaux sociaux, puis il était comme, man, c'est fucking all good parce que eux font des trucs que moi, je voudrais jamais me faire filmer en train de faire de la bouffe. Puis je me demandais, mais toi, t'as vécu ça avant. Puis moi, j'ai travaillé dans des cuisines quand j'étais jeune, puis tu sais, c'était un restaurant français 4 étoiles, puis c'était comme oui chef, t'as-tu des trucs que t'as vu, t'as vécu, ton mode de vie ressemblait à quoi, c'était comment ces années-là?
Moi j'aime cuisiner, j'aime encore énormément cuisiner, même je dirais que depuis que je suis plus dans un restaurant, j'ai renoué avec la passion de la cuisine. La pandémie, ça m'a vraiment, écoute, j'ai fait des affaires pendant la pandémie que j'avais pas fait depuis l'école de cuisine. Okay. Tu sais, des tartes, il appelle ça des trottoirs aux fruits, tu fais ta propre pâte feuilletée maison. De la costarde, des fruits, tu mets de la bricotine, des trucs que tu fais une fois dans ta vie. J'ai vraiment renoué avec la passion, mais quand j'avais 21 ans, j'en vivais. Je veux dire, on travaillait soit... j'ai quasiment frisé le 100 heures une couple de fois là, dans une semaine. C'était comme un but de se rendre à 100 heures, puis on dirait que c'était comme le but impossible de le faire. Mais ça a passé proche une couple de fois. Bref, on finissait le shift. Et il faut que tu comprennes, à la fin des années 90, début 2000, pour les jeunes qui écoutent, il n'y avait pas d'Internet. Ça existait, mais on s'en servait pas. Et on écoutait des cassettes VHS que des amis ou les des chefs nous prêtaient qui avaient été en France puis qui avaient ramené des documentaires sur Alain Ducasse, sur n'importe qui qu'on pouvait mettre la main dessus. Puis on écoutait ça.
Pour apprendre,
là,
genre, pour apprendre. Okay.
Ouais, c'était comme. En fait, je revivais un peu ce que j'avais vécu. Tu sais, quand t'étais avec une gang de skaters d'un party, comment c'est poche parce que ça parle juste de kickflip, puis de switch tree flip, puis de marque de souliers. Ben, c'était la même chose que je vivais, mais cette fois-ci avec la cuisine. Fait que j'étais pas dans un territoire inconnu. C'était à peu près la même affaire. Ouais. Fait que c'est juste j'ai changé ma passion de place. J'ai troqué le skateboard pour la cuisine.
Puis t'as fait combien de restaurants dans tes années? T'as fait pas mal?
Ben, il me semble que j'avais déjà compté. Tu sais, il y a des places que. Moi je voulais travailler avec les meilleurs. Ouais. Fait que quand je travaillais au Méditerranéo, à l'époque, ça c'était comme mettons l'équivalent d'un toqué, quasiment. Okay. Dans la même lignée un peu. Okay. Là. Même clientèle. J'espère que j'insulte pas normalement la prise, si jamais il écoute ça. Bref, ceci étant dit, tu sais, quand je tombais dans une place de même, je restais là le plus longtemps possible. Je pense qu'avec eux autres, j'ai fait comme 2 ou 3 ans au Méditerranéo. Après, eux, ils ont ouvert un autre restaurant qui était à la Brunoise, puis les chefs m'avaient choisi.
Okay.
Puis ça, c'était les chefs qui partaient leur propre restaurant. Puis ils m'avaient choisi pour les suivre dans ce restaurant-là. Fait que pour moi, c'était comme un honneur d'aller avec eux autres. Là, rendu là, par exemple, j'avais comme 25 ans, puis je commençais à en même temps avoir mon troc de la cuisine.
Okay.
Parce que... tu sais, au début, c'est le fun. J'étais comme le premier de mes chum skaters à avoir une vraie job. Eux autres, j'étais le moins bon de la gang. Eux autres, ils ont comme continué avec leur commanditaire et faire des compétitions en Europe, aux États-Unis. Moi, je pouvais plus suivre cette rythme-là. Ouais. Fait que, c'est ça. J'étais comme le premier à avoir une job, mais quand eux, ils ont comme commencé à lâcher skate puis s'en allaient en construction. Pis tout
était chef.
Ils faisaient plus d'argent que moi. Il y avait les week-ends de congé, ils allaient camper, ils allaient à la pêche. Pis tout. Moi, je pouvais rien faire. Mm-hmm. Fait que ça m'a rentré dedans un moment donné. Puis j'étais comme, je suis plus sûr, je veux faire ça. Mm-hmm. J'avais 25 ans. Écoute, moi, j'ai commencé dans les cuisines. Mon père avait un casse-croûte.
Okay.
Mes parents ont divorcé, fait que je passais mes week-ends au casse-croûte. Ouais. Après ça, j'ai commencé dans un Giorgio, j'avais 15 ans. Giorgio, pour ceux qui savent pas, c'est comme l'équivalent d'un Saint-Hubert barbecue, mais en version italienne.
Okay.
Ça existe plus. Mais, fait que à 25 ans, ça faisait déjà 10 ans que je cuisinais. Fait que j'étais comme, écoute, la vie est longue, là. À cette heure, je dis que la vie est courte, mais à cette époque-là, la vie avait l'air longue. Puis je voulais voir qu'est-ce que la vie avait à m'offrir. Ouais. Fait que j'ai essayé une couple d'autres affaires pour finalement revenir à la cuisine.
Ah ouais. Puis comment tu fais pour devenir chef dans un plus, tu sais, comment tu passes de chef dans un casse-croûte à chef dans un plus beau restaurant? Tu sais, c'est-tu toi qui démissionne puis t'essaies d'aller ailleurs?
Il y a des autodidactes qui, tu sais, qui y a un peu de bonne place au bon moment aussi dans tout ça, mais c'est des connaissances. Tu sais, j'ai été à l'école en cuisine, puis j'ai étudié là-dedans, puis après j'ai été travaillé avec des... Puis quand t'as fini l'école de cuisine, tu deviens pas chef.
Non,
deviens commis dans un grand restaurant, t'écœures des épinards, puis tu regardes ce qui se passe. Puis si le chef trouve t'es bon, tu vas monter de poste tranquillement, pas vite. Puis écoute, tu sais, il faut que le bon monde démissionne au bon moment, puis tu montes d'un poste, puis tranquillement, pas vite, un moment donné, quelqu'un va dire « Hey, moi j'ai un chum, il ouvre un restaurant, puis il cherche un chef. » Moi, je pense que t'es le gars parfait pour la job. Puis c'est de même que ça arrive.
Puis comment t'as trouvé la job de chef? T'sais, parce que je sais que chef, c'est vraiment... tu gères, tu coordonnes.
Je détestais ça. Moi, j'aime cuisiner. J'aime pas faire l'horaire. J'aime pas appeler des fournisseurs. J'aime pas gérer des vacances. Tu veux un congé en fin de semaine parce que tes grands-parents sont morts. Moi, je les ai pas connus, mes grands-parents. Fait que j'ai aucune empathie pour ce genre de problème-là. Fait que j'étais vraiment pas bon comme chef. Même, j'étais chef au Misto pendant longtemps là, dans le plateau Mont-Royal, qui était un restaurant, c'était quasiment une institution. Là, ça a fermé, ça faisait 20 ans, c'était ouvert. Puis j'étais chef à peu près 10 ans là-dedans.
Okay.
Et j'avais un deal avec le sous-chef qui était Félix.
Ouais.
Puis Félix faisait comme la marde de chef, puis moi je faisais la cuisine. J'aimais bien mieux ça. Là,
puis je sais, tu dis que t'as pas trop aimé ce côté-là d'être chef, mais t'as été partner à un moment donné dans un restaurant. Ça, c'était comme...
C'est un resto. Au bar, bar.
OK.
Puis, écoute, si tu penses qu'un restaurant, c'est un zoo, ah, ouvre-toi
ouais.
un bar.
Ah,
ça,
ouais.
C'est, ça, c'est quand même, ouais, c'est un zoo, ça.
Ah, ouais.
Zoo,
ouais, comment
speed.
T'as trouvé ça? Ça doit être fou parce que moi, dans ma tête, ouvrir un bar à Montréal, c'est genre l'équivalent de comme aller à la guerre, là, de se dire
ah,
comme.
C'est à peu près ça. Ouais. Écoute, c'était toute une aventure. C'était le fun. Pour vrai, c'était le fun. Ouais, c'était peut-être
mais
pas
t'avais
si...
de l'argent de côté puis quelqu'un te l'a proposé.
Non,
puis
j'avais pas une scène de côté. Okay. On m'a vraiment. Ah non, non, écoute, j'étais pauvre de chez pauvre à cette époque-là. Et non, écoute, le nom Bob le Chef commençait à être connu un peu. Il y avait comme okay. un buzz autour de ça. Puis c'est des gars qui avaient une vision de mettre plein de monde un peu connu ensemble okay. puis d'attirer une clientèle. Puis écoute, t'sais, tout le monde avait sa force là-dedans. Moi, je m'occupais ouais. de la cuisine. Un s'occupait du service. Un okay. s'occupait... je te jure, il y avait quelqu'un qui s'occupait de l'éclairage.
Ah, pour vrai?
Oui, oui. Okay. Mais on avait un bar qui, écoute, quand il roulait au pied carré, personne ne faisait autant d'argent que la Rachel
ouais.
Rachel.
Oh
à l'époque,
ouais, hein.
là, c'était capoté. Les jeux du soir, c'était minuscule. Le monde se... Je voyais même pas le fun d'aller dans ce bar-là. Okay. Puis c'était à moi. Je suis comme, il y a ben trop de monde.
Ouais, ouais.
Tout le monde est debout, tassé. Il y a un line-up dehors. Ça, ouais. Écoute, c'était quelque chose.
Mais c'est quoi? Il y avait un hype à propos de ça?
Il y avait un gros hype. Okay. Ouais, absolument. Puis ouais. ça a duré un an. Puis écoute, je suis content que ça n'a pas duré plus.
Ah ouais,
c'était,
hein?
c'était parfait, par exemple. Ça tu sais, sur le coup, je pense que j'étais un peu amer, sans rentrer dans les détails, là, ouais. mais comment tout s'est terminé. Je pense qu'il y avait une amertume envers tout ça. Mais avec du recul, puis en plus, j'ai embarqué mon partner Alexis là-dedans. Là, okay. Puis lui, c'est pas un gars de restaurant. Fait que lui, il pensait juste qu'on était tous complètement débiles légers. Mais avec du recul, il y a beaucoup d'apprentissage dans tout ça. Vraiment, j'ai appris que j'ouvrirais plus jamais de okay. bar.
Salut, désolé de couper le podcast avec Bob, mais comme vous le savez peut-être déjà, j'ai une compagnie de production vidéo et on a fait des vidéos pour plein de grosses compagnies comme Spy Expert, La Croix-Rouge, Lise Wattier, Pure Vodka et voyager partout dans le monde pour faire des productions vidéo. Et on vient de sortir une formation en ligne pour vous montrer tout ce qu'on a appris sur comment faire des vidéos professionnelles. Ça s'appelle Vidéo Créateur Pro. C'est un cours 100% en ligne où on touche à tous les sujets pour vous montrer comment faire des vidéos professionnelles et même avoir une carrière dans le domaine de la vidéo. Que tu sois déjà vidéaste ou même créateur de contenu, entrepreneur ou juste amateur de vidéos pour le plaisir, ce cours-là est parfait pour toi. Je sais que les réseaux sociaux, c'est un gros pilier de ta stratégie marketing et il te faut des belles vidéos. Et quel meilleur moyen de l'apprendre soi-même ou même former un employé pour que vous puissiez être autonome dans la création de contenu. Si tu veux plus d'informations sur Vidéo Créateur Pro, clique sur le lien dans la description et on donne même un drone, le DJI Mini 2, pour les nouveaux membres qui se joignent au cours d'ici le 20 septembre. Et apprends comment faire des vidéos qui démarquent ton entreprise des autres. Encore, clique dans la description pour avoir plus d'informations sur le cours. Bon podcast.
Mais attends, j'ai juste d'avoir un flash. Ouais. Est-ce que Phil Grisé, il y a un rapport là-dedans?
Il était pas en rapport avec notre bar, okay. nous autres,
okay.
mais il était pas loin. Là.
Okay, il y avait
était,
pas un
je
bar,
pense, il y avait comme un bar de l'autre bord de la rue, me semble,
okay.
Qui était la même gang de partners. Là.
Okay.
On a comme une espèce d'idée de...
Okay.
de
Ces gens ne savent pas Phil Grisé, c'est le propriétaire des Empire, qui a
oui,
plein de bars.
Oui,
puis
oui,
de
oui.
Restaurants,
c'est un chum
puis...
personnel,
ah,
Phil Grisé. Ouais,
moi,
je moi,
connais
ça fait
un bout
Phil,
que j'attends d'avoir Phil.
Ah, mon Dieu, écoute, je vais lâcher un coup de fil.
J'aimerais ça, man.
Écoute, non, c'est un gars que je connais depuis qu'on a 16 ans,
oh,
on fait du skateboard
ouais.
ensemble, Phil,
man,
moi.
C'est
ouais.
Moi, j'ai tout ce que j'ai appris, mettons, de l'entrepreneuriat,
ouais.
une grosse partie, là, c'est en regardant ce que Phil faisait.
OK.
Ouais. Puis genre, j'ai appris, legit, j'ai appris l'anglais en regardant un podcast qu'il a fait. Là, je l'ai transcrit, là, man. Genre, parce que je trippais tellement dessus. Puis son podcast, je le trouvais intéressant. Fait que j'apprenais l'anglais avec ce podcast. Le seul podcast qu'il a fait, puis genre, je trippais dessus depuis fucking longtemps.
C'est un Chris de bon skater
ah,
aussi.
Ouais,
en
hein?
rampes, puis il tue, puis
ah,
Phil Grisé.
Ouais, ouais, est-ce que c'est hot?
Peut-être moins à cette heure, parce qu'on a le même âge, puis moi, je suis plus grand-chose, ça, c'est sûr, là. Fait que, mais
ouais.
à une certaine époque.
Ah, ouais,
ouais,
c'est
ouais,
intéressant. Puis mettons le côté entrepreneurial, ça. Tu t'avais-tu un peu ce goût-là ou
non.
vu que quand t'étais chef, t'étais genre...
Non, puis je pense pas que je l'ai plus maintenant. Non,
mm-hmm.
c'est pas... écoute, tu sais, je me considère très chanceux de comment mon parcours de vie s'est déroulé. Bon, il y a du travail là, qui va avec cette chance-là,
ouais.
mais tu sais, quand je disais être à la bonne place au bon moment souvent,
ouais.
Moi, j'apprécie beaucoup ce que j'ai la
wow.
chance de faire. Tu sais, faire de la télé, de la radio,
mm-hmm.
rencontrer des gens qui sont pas mal tout le temps vraiment content de me rencontrer.
Non, c'est, le fun.
C'est vraiment le fun, pour ouais. vrai. Puis tu sais, je suis comme tout le monde, je suis humain. Des fois, je commence à travailler, il est 5h du matin. Fait que je me lève à 3h30, je vais promener le chien avant de... Ça me tente pas.
Ouais.
Mais une fois que j'ai pris ma douche, c'est parti. Je suis tout le temps de bonne humeur. Je me considère vraiment chanceux. Mais entrepreneur, ça, je suis pas.
Ah, ouais,
moi, je pourrais surfer avec ce que j'ai en ce moment. Puis si je finis mes jours de même, je vais...
Ça te convient.
Ça me convient parfaitement. Là.
Ah, c'est ça. Puis est-ce que tu as... comme ton gérant, est-ce que lui, il est comme « Oh, all right, man, go, on step up, genre... »
Plus que moi, okay. Mais lui aussi, tu sais, on n'est pas assoiffé de pouvoir ou d'argent. Mm-hmm. Tu sais, je pense qu'Alexis, il est plus business que moi, ça, c'est certain. Puis c'est là que, d'une équipe, il faut que tout le monde sait ce qu'il y a à faire, tu sais, je veux dire... on est... Comment je pourrais dire? Alexis puis moi, on est des chums de longue date, fait que souvent, quand on va jaser, ben, ça va partir comme des chums de longue date. Ouais. Mathilde, elle, sa job, c'est de nous ramener à l'ordre. C'est aussi de faire la mise en ligne. Elle s'occupe beaucoup de répondre aux commentaires sur le site web. Moi, je réponds à tout ce qui est Instagram puis Facebook personnel, puis Threads maintenant.
Oh,
Sinon, Mathilde, elle va gérer la page Facebook. Elle va faire la mise en ligne, du montage vidéo quand on a besoin. Puis Alexis, mais lui, il est devenu un peu l'agent au travail tout ça. Fait que gère les contrats, gère mon agenda. Et puis les trois ensemble en même temps, tu sais, comme quand on a parti le brand de vin puis tout, les trois, on s'est vraiment investi là-dedans. Tu sais, c'est moi qui décide les cépages, pas mal, puis la compagnie d'embouteillage, qui est une gang vraiment cool, là, que j'ai la chance de travailler avec, me donne carte blanche sur pas mal tous les cépages que je veux faire. Les pays d'origine aussi, on me guide un peu, mais... Okay. C'est pas mal ça. Puis au final, après, mais on part à la dégustation de qu'est-ce qu'on veut mettre dans la bouteille. Et écoute, ça, c'est le bout de le fun parce qu'Alexis, Mathilde et moi-même, on participe. Ouais, et même ma femme participe activement dans
c'est cool.
Dans
ben, on va y revenir parce que tantôt, je vais parler un peu plus de ton brand puis tout ce qui entoure. Mais quand tu as commencé, Bob le Chef, tu sais, si tu disais ça fait un bout, c'est à quel moment que tu t'es dit, all right, j'ai plus besoin de travailler dans des cuisines? Ça a pris combien de temps, ce gap-là, quand tu as commencé à mettre ta première vidéo dans un forum, à OK, je lâche, j'ai plus besoin de travailler dans des cuisines?
En fait, ce qui est arrivé, j'ai eu, il y a peut-être 7-8 ans là-dessus, j'ai eu une très mauvaise année fiscale.
Okay.
En fait, au début, je faisais une émission qui s'appelait. J'étais chroniqueur à une émission qui s'appelait. Mon Dieu, j'ai oublié le nom, ça ne me revient pas. Une émission à Radio-Canada. Une émission du midi. Et l'émission a été cancellée.
Okay.
Après ça, je faisais des capsules pour MSN en français. Il y avait tout un portail francophone MSN.
Okay.
Puis c'était quand même assez lucratif faire ça.
Hein?
C'est pour ça qu'on a tardé, nous autres, sur la vague YouTube.
Okay.
On était beaucoup plus. On mettait toutes nos œufs dans MSN à cette époque-là. Et par la suite, le resto où je travaillais a fermé. J'étais chef au misto puis ça a fermé le lendemain. Fait que j'ai perdu 80% de mon revenu d'une shot. Puis j'étais un peu perdu, je vais t'admettre, parce que je suis comme, qu'est-ce que je vais faire, tu sais? Je vais-tu faire un CV puis faire du porte-à-porte puis me trouver une job, tu sais? Puis Alexis, c'est là qu'il a vraiment mis son casse d'agent. Puis il a dit, moi, je vais appeler tous les festivals, tous les gens que tu as travaillé avec, puis je vais t'en trouver de la job. Puis je pense que j'ai jamais autant travaillé que ça.
Tu faisais quoi? Qu'est-ce que tu faisais?
Des festivals, j'en fais encore. Okay. Ça peut varier de porte-parole, démonstration de cuisine. Tu sais, moi, j'ai vraiment plusieurs shows de rodé, un peu avec des gags, puis tout devant le public. Puis j'arrive avec deux ronds butane, une planche à découper, puis je fais participer du monde dans la foule. C'est cool. Fait que, tu sais, puis à cette heure, il y a un festival de bouffe. Ben, pas à cette heure, depuis une vingtaine d'années, il y a un festival de bouffe pour tout.
Pour
la poutine, le burger, le ribs. Tu sais, fait que je suis venu être dans cette espèce de circuit. Puis je faisais beaucoup de démonstrations de cuisine. Des gens de clubs de ville m'invitaient. Fait que j'ai fait comme toute la rive nord de Montréal. Je m'installais, que ce soit une... J'ai déjà été dans la cour municipale.
Okay.
où ils ont littéralement tassé les bureaux, puis on met une table en avant, puis les gens étaient tous assis dans le cours, puis il y avait beaucoup de monde, il y avait comme une centaine de personnes pour me regarder faire 4 recettes en direct pendant 45 minutes de temps.
Mais c'est off, fait que c'est vraiment à ce moment-là que t'as pu vivre de comme... Okay,
ouais, ça fait, ça, fait, ben, ça fait en fait 18 ans qu'on fait le projet cette année, et ça fait 8 ans, si je me trompe pas, que je travaille plus dans les restaurants.
OK, puis t'as-tu, tu sais, quand tu le faisais, là, à un moment donné, quand ça faisait, mettons, 10 ans que tu avais ton brand, Bob Chef, mais tu travaillais encore dans un restaurant. Est-ce qu'à un moment donné, tu avais fucking hâte de dire, je suis tanné de travailler ici ou non?
J'aimais ça, travailler dans un restaurant.
OK.
Puis, je sais pas, je l'ai déjà compté, là, j'ai essayé de compter les mêmes histoires deux fois, mais un moment donné, moi, j'habitais à Rosemont, puis je travaillais dans le plateau Mont-Royal, puis j'avais pas de char à l'époque. Ça fait pas, ça fait à peu près 8 ans que je conduis.
OK.
Puis, je marchais à tous les jours, beau temps, mauvais temps, fret, pas fret, je m'habillais en conséquence, puis je marchais jusqu'au boulot. Puis, je longeais tout le temps la traque de chemin de fer qui sépare Rosemont du plateau. Et je me souviens là, de vraiment me dire que j'étais bien en vie, que j'étais content, puis que moi j'étais prête à vivre de même. Plus me tombe dessus, ben tant mieux, mais si c'est ça que j'ai à vivre, c'est cool. J'aimais ça aller au resto, j'aimais ça jaser avec les gars, ça me gardait jeune aussi. Faut comprendre, quand t'as 15 ans, tu travailles dans un resto, t'es le plus jeune. Quand t'as 38 ans, tu travailles dans un restaurant, t'es le plus vieux. Il y a quelque chose, ça me gardait jeune. J'allais au Fouf voir des shows de punk rock avec le plongeur le vendredi. Puis, je trippais. Puis, je pense, peut-être pas, là, peut-être que je dis n'importe quoi aussi, mais je pense que si le misto avait pas fermé, puis il serait encore ouvert, puis on me donnerait encore deux chiffres semaine, parce qu'à la fin, c'est ça, je remplaçais le chef. J'avais un chef qui travaillait 5 jours semaine, puis moi, je faisais les dimanches lundi pour qu'il y ait une qualité de vie, puis tu pouvais me laisser les clés du restaurant, je veux dire, il n'y avait pas de stress. C'est ça, je connaissais la place comme si c'était à moi. Fait que, tu sais, je pense que je le ferais encore deux jours semaine. J'aimais vraiment c'est ça.
Tu vas peut-être du monde qui vont t'écrire, genre, hey, moi, j'ai un resto, viens-t'en.
Oubliez ça.
Ah, c'est hot, ça. Puis, est-ce qu'un salaire de chef, tu trouves que c'est parce qu'on dirait qu'on en parlait beaucoup ces temps-ci dans les nouvelles, tu sais, les salaires des restaurateurs. Puis là, il était comment les plongeurs sont payés 14$ de l'heure. C'est quoi ça? C'est même trop nana. Genre, un salaire de chef, tu trouves-tu que ça fait du sens pour qu'est-ce que c'est ou non?
Ben, tu sais, comme tantôt, tu me parlais, t'as un chef d'hôtel, lui, il doit être bien payé. Tu sais, lui, c'est sûr qu'il est bien payé. Ouais. Des chaînes d'hôtels, ça paye très bien.
Ouais.
Même que un moment donné, dans ma carrière, j'avais travaillé dans un hôtel que je nommerais pas.
Okay.
Puis le salaire était vraiment bon. Là. On était en 99, je pense, je faisais comme du 24-25$ de l'heure. Puis, tu sais, full assurance dentaire.
Okay.
Puis une grosse chaîne de restaurants. Fait que, si tu allais travailler à Hawaï, ben tu peux t'organiser pour faire des transferts puis aller travailler là-bas. C'est malade.
Ouais.
Mais j'aimais pas la bouffe que je faisais. Puis moi, ce qui me stimulait dans la job de cuisinier, c'était pas de la transformation alimentaire. Je voulais faire. Moi, je voulais créer des assiettes. Je voulais dresser des trucs. Pas juste couper du prosciutto à journée longue, ça m'intéressait pas.
Ouais.
Fait que j'ai lâché ce job-là très jeune en me disant, si je reste ici, je vais vraiment tomber dans le panneau. Je vais tomber dans l'engrenage, puis je serais pas capable de lâcher ça.
Ouais.
Parce qu'une fois que t'as un enfant, une femme, tu peux plus dire à ta blonde, je lâche ma job pour être à 14$ de l'heure au coin de la rue. Tandis qu'au bistrot, au resto, haut de gamme, sa rue à l'époque, c'était Saint-Laurent qui était jet set, ça l'est plus, je sais même plus c'est où, mais bref, t'étais beaucoup moins payé. Énormément moins. La moitié du salaire, mais en guise d'apprentissage, tu touchais à tout.
Okay.
Fait que t'apprenais beaucoup plus d'affaires, puis les menus, ils changent, puis tu crées des menus, puis tu travailles avec le sommelier.
Mm-hmm.
Puis aussi, il y a moins de staff, fait qu'il y a un côté beaucoup plus fraternel, familier dans tout ça, qui c'était ça que moi je recherchais. Fait que moi, j'étais allé pour moins de cash, plus de fun.
Un vrai.
C'est là qu'on voit que je suis vraiment pas entrepreneur.
Puis, t'as-tu une anecdote, à un moment donné, d'un resto, tu sais, de comme une assiette qui t'a scié les oreilles, ou toi, t'as pitché une assiette? T'as-tu une affaire de même que t'es comme, hey, c'est où une soirée? Tu sais, le chef qui était venu, il me parlait qu'à un moment donné, il y avait genre deux gars qui sont pas rentrés, puis il y a eu une soirée de malade, puis que c'était comme, ils ont pas arrêté. Y a-t-il une histoire que tu peux me raconter?
Vie, là, C'est fou. Il me semble que j'en raconte tellement. Même il y a eu le livre Le Plongeur, tu sais, qui raconte comme toute une époque de nos vies au Misto. Écoute, il est arrivé tellement d'affaires capotées. Une que j'ai contée dans une balado qui je sais pas si. Je pense pas. En tout cas, je me souviens d'être jeune, puis quelque chose m'a donné la piqûre au restaurant. Je travaillais au Giorgio à côté du Stade Olympique et Pink Floyd venait au Stade Olympique. Okay, il venait trois soirs. Et moi, j'ai eu des billets pour le troisième soir. Je suis allé les voir. Et mon gérant m'avait supplié de ne pas y aller. Il était prêt à me racheter les billets. Et je disais, écoute, le gros, dans 40 ans, je vais encore me rappeler. Je me rappelle pas du show parce que, en tout cas. Mais ceci étant dit, je suis content d'avoir été au show. Oui. Mais le premier soir du show, je me souviens là, que c'était débile. Tu sais, Giorgio, c'était très abordable comme restaurant. Okay. C'était juste à côté du stade. Fait que même Pink Floyd, c'est un événement. Là, le monde est partait du lac Saint-Jean, de la Gaspésie, de partout, en autobus. Fait qu'on avait des groupes de quatre. C'était un gros resto. Giorgio, tu peux asseoir 400 personnes là-dedans. Fait qu'on avait fait pas loin de 1000 clients là, ce soir-là. Puis tout avant le show. Fait que du moment qu'on a ouvert à 4 heures jusqu'à 7 heures, tu sais, calcul qu'on a fait comme 400 clients de l'heure. Là. C'est insane.
C'était quoi la nourriture là-bas?
Pizza, pâte. Mais d'une formule faisable. Okay. Tu pouvais faire 300 plats à l'heure. Mais je me suis dit, c'était complètement le bordel. Puis c'était en même temps, si je me trompe pas, il y a comme un espèce de long week-end ou quelque chose qui était au travail, tout ça. Okay. Fait que déjà, on était pour être occupé. Et au travail de toute cette grosse histoire, on a eu une pizza de 18 pouces. Puis ça, on n'en faisait jamais. Tu sais, 18 pouces, c'est à peu près ça. Là. C'est comme une jumbo. Ouais. Mais on n'en vendait jamais. Fait qu'on n'en avait jamais de fait à l'avance. Okay. Toutes les autres plats, t'as fait à l'avance, sauf celle-là. Puis là, il fallait comme qu'on sacrifie un homme, sa ligne, pour aller faire une 18 pouces. Puis on a pris quand tu prends le moins bon de la gang. Puis on l'a envoyé. Puis c'était un gars qui était réputé pour faire des gaffe, ce gars-là.
Pourquoi
tu choisis pas avec qui tu travailles dans la vie. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris jeune. Mais quand il est revenu avec cette magnifique pizza, il était comme « Wow, man, good job », tu sais, comme pour toutes les fois que t'as merdé dans la vie. Ça c'est une crise de belle pizza. Puis on l'a mis au four. Il fallait partir un four juste pour cette pizza. Juste pour te mettre en contexte. Ouais. Et quand la pizza a sorti du four, qu'est-ce que tu fais habituellement? Tu accotes le roller dessus, le rouleur là, pour le couper. Puis avec ta spatule, tu viens la décoller.
Okay.
Puis il n'y avait pas huilé à la plaque. Fait que la pizza était fusionnée avec la plaque. Puis là, on ne savait pas quoi faire. Puis là, le gérant nous criait après. Où est-ce que tu pizza? Le client y arrive. Fait que on s'est regardé. Puis on a coupé la pizza. Puis on l'a mis dans la boîte avec la tôle. Puis ben écoute, Instagram n'existait pas à l'époque. Fait que ça s'est pas ramassé dans les stories à personne. Mais puis je vais tout le temps m'en rappeler. C'était cinématographique comme moment. Le gérant, il a levé la boîte puis il a dit « Tabarnak, les boys, à paix, vous avez mis du stock là-dessus! » Puis on s'était tout regardé comme « Chris, il y a une tôle de livre là-dedans. Là, » Mais sinon, tu sais, des affaires trash, écoute, on pourrait s'asseoir ici avec une bouteille de whisky puis je pourrais t'en compter jusqu'à demain matin. Là, j'ai tout vu. Mais en fait, j'ai pas tout vu parce que Drette, quand tu penses que t'as tout vu, il arrive d'autres choses. J'ai vu des batailles dans la salle à manger, des clients, dans des restos chics là, que tu t'attendrais pas à ce que ça dégénère la main. Alors, du monde qui se ridiculise, des clients qui s'endorment dans les toilettes. De tout, vraiment.
Pis c'était quoi ton type de cuisine que toi t'étais master, tu sais, que si genre ça, moi je suis imbattable.
Moi j'aime tout, mais je pense que pour un Québécois, je maîtrise bien la cuisine italienne.
Okay.
Plus que la cuisine française des fois c'est un peu pointilleux. Mm-hmm. La cuisine italienne, ça me convient, c'est un peu plus un peu de ça, puis j'ai t'aimé ça.
Vraiment cool. J'ai un petit segment parce que là on est à peu près au milieu du podcast. Puis
ça passe vite.
Oui, je sais. J'ai un segment commandité par mon commanditaire d'aujourd'hui, qui est l'entreprise de cinétique Bromore.
Je peux-tu t'interrompre?
Vas-y.
Parce que Bromore, ils ont fait... ils m'ont fait une planche.
Oui, exactement.
Puis elle est là, là. Faut adresser l'éléphant blanc dans le studio.
Exact.
Adresser, ça se dit pas, mais il faut, en tout cas. Faut le voir, faut en parler. Là.
Si vous êtes en audio, vous voyez pas, mais notre commanditaire a fait une planche à découper en bois avec le logo de Bob. Dans le fond, le logo du vin.
Ouais.
Gravé dedans la planche qui est fucking belle.
Elle est malade.
Elle est vraiment belle. Donc, mon segment, dans le fond, le commanditaire aujourd'hui, Bromore, vous propose des solutions pour vos besoins d'affichage, des enseignes personnalisées ou au lettrage de votre véhicule, si vous voulez. Donc, c'est eux qui ont fait cette plaque-là et ils vont vous aller les voir. Ils sont vraiment cool. Ils ont une approche humaine. Ils sont vraiment cool. Ils sont à Longueuil. Allez les voir. Donc,
ils font pas juste des planches à découper,
ils font genre de tout. Tu sais, mettons des hôpitaux, tu sais, les panneaux pour dire les toilettes sont parfaites, ouais. Tout, ils font ça. Ils font aussi une bouteille d'eau custom, des verres. Ils nous ont fait, nous, des verres gravés avec le nom de notre entreprise dessus. Fait qu'ils peuvent customer tout qu'est-ce que vous voulez. Ils sont vraiment cool. Puis mon segment, c'est que j'ai une question par lettre pour épeler Bromore. Donc, on commence.
Let's go.
B, batterie. Comment tu recharges tes batteries?
Moi, je relaxe beaucoup dans la vie. J'aime ça lire des romans, par exemple. Ça, c'est quelque chose. Lire de tout.
Okay.
Des biographies, n'importe quoi. J'ai lu récemment? J'ai lu Stephen A. Smith, qui est comme mon annonceur de sport préféré. Okay. J'ai lu Keith Richards en biographie. Là, je lis Le Chardonneret, qui est une espèce de brique de 1200 pages. Ma blonde est écrivaine, Victoria Charlton. Je vais name-dropper ma femme. On a une bibliothèque quand même impressionnante chez nous.
Oui, j'en doute pas.
Je peux juste prendre n'importe quel livre puis partir avec. Là, c'est
très,
le fun.
Très hot. R, rencontre, une rencontre marquante.
Une rencontre marquante dans ma vie.
Ouais, qu'une personne que t'as fait genre, oh shit, ça a vraiment changé de quoi ou ça m'a inspiré ou.
Fuck, qui c'est que j'ai rencontré qui m'a vraiment. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de monde dans ma vie.
Ouais.
J'essaie de penser là, qu'est-ce qui. Une bonne rencontre. Si c'est une tough, celle-là.
Ouais, c'est pas facile, ça.
Ouais. Sais-tu quoi? moi, j'aime ça, des moments spéciaux.
Ouais.
Puis, il y a pas super longtemps, je l'avais rencontré à plusieurs reprises, mais il y a pas super longtemps, j'ai rencontré Sœur Angèle.
Ah ouais?
Puis, on faisait un tournage, en fait, ensemble. Un tournage un peu format entrevue comme je fais avec toi en ce moment. Ouais. Puis pendant que les gars s'installaient, je sais pas pourquoi ils ont mis une bouteille d'alcool sur la table entre Sœur Angèle puis moi. Okay. Puis elle m'a servi un verre.
Oh,
puis
ouais.
C'était un genre de Jägermeister Czech que tu peux pas acheter ici au Québec, qui venait de l'Ontario. Tu peux l'acheter dans un beer shop, là, dans un liquor store en Ontario. Et elle connaissait tout ça. Puis elle m'a parlé de tout ça.
Oh,
puis elle m'a versé un gros verre sur glace. Puis elle m'a fait chin-chin. Puis on s'est mis à boire ça. Puis. J'étais comme, wow, ça, je vais m'en rappeler longtemps de ça. Puis on a jasé de. Tu sais, avant de rentrer en onde puis de dire ce qu'on avait à dire, on a eu comme une vraie conversation puis c'était vraiment un moment plaisant.
Vraiment hot. Un objectif que tu as à court, moyen, long terme dans ta vie.
J'espère pouvoir prendre ma retraite un jour. J'en demande pas plus.
Ah ouais, hein? T'aimerais-tu ça prendre ta retraite?
Moi j'aimerais ça travailler jusqu'à la fin de mes jours.
Okay.
Peut-être pas 5 jours semaine, mais j'adore ce que je fais. Mm-hmm. Fait que tu sais, j'aimerais ça. Écoute, si à 70-75 ans, j'étais encore en pleine forme, puis on m'invite à faire des podcasts, des shows de radio, faire un petit segment TV de temps en temps, je serais content de le faire. Mais j'espère justement, j'espère pas être obligé de retourner travailler dans un restaurant un jour. C'est quelque chose que je vise.
OK. Non, j'aime ça.
J'ai à le faire, je vais le faire, par contre. Mais j'aimerais ça l'éviter.
J'aime ça. Mantra. Un objectif de vie. C'est comme un mantra de vie. T'sais, que tu, une phrase que tu dis souvent ou tu te rappelles.
Mon Dieu.
Mm-hmm.
Je suis tellement pas un gars de mantra puis de chakra puis de toutes ces astuces d'affaires-là.
Mais tu sais, il y a quelqu'un qui m'a dit déjà genre « Ah, ben tu sais, c'est pas grave. »
Il n'y a aucune honte à faire des hot dogs dans la vie. La seule honte, c'est d'en faire des mauvais.
Ah.
Puis c'est un grand chef qui m'a déjà dit ça.
Pour vrai?
Yeah.
Ah, c'est fucking cool. Hein. J'adore ça. Apprentissage. Un apprentissage que tout le monde devrait savoir. Tu sais, ça peut même être con, là, tu sais.
Tout le monde devrait savoir à se faire bouffer dans la vie. Ah ouais. Pour vrai, là, ouais. Parce que, ben, puis je reviens vraiment à l'argument de ma première capsule web il y a 18 ans de ça. Quand tu sais cuisiner dans la vie, ben, t'économises de l'argent, premièrement. T'impressionnes ta date tout le temps, hein, ouais. Que ce soit gars, fille, whatever, man, tu vas impressionner, c'est sûr. Et, ben, c'est une façon, je veux pas dire de te tenir en santé, mais de savoir qu'est-ce qui s'en va dans toi.
Ouais.
Tu sais, on s'achète des chars. Puis on met du suprême dedans, mais on, notre corps, on met de la crap dedans, mm-hmm. là, sans savoir si ça vient d'où, puis qu'est-ce ouais. que c'est vraiment. Quand tu cuisines pour toi, tu peux manger de la crap, tu peux manger des biscuits,
ouais.
mais c'est toi qui contrôles tout. Tu sais, il y a combien de sucre dans tes ouais. biscuits, tu sais, il y a combien de beurre, tu sais, il y a combien d'œufs. Tu peux les acheter. Écoute, si tu fais plus d'argent, tu peux tout acheter ces produits-là bio, mm-hmm. te faire des biscuits bio maison.
Ouais. C'est
non, c'est ça. Mais ouais, moi je trouve que cuisiner, là, c'est le ultimate skill. Tu sais, tu peux toujours t'engager un menuisier charpentier. Ouais. Moi, je suis chanceux, j'en ai beaucoup qui sont amis avec moi ouais. dans mon entourage. Fait que, ben, cuisiner, je trouve, c'est important.
Très cool. Dernière lettre, R, résilience. Une épreuve qui t'a rendu résilient.
Ah, écoute, travailler dans des restaurants, ça m'a ouais. rendu résilient. Puis ça me fait apprécier qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Et aussi, j'ai pas froid aux yeux. Écoute, puis même j'ai eu d'autres jobs des fois que puis le monde il me disait va pas trop vite là.
Ouais.
Puis moi je vois avec l'approche quand faut que ça roule.
Ouais, ouais.
Tu sais, c'est puis la cuisine, je pense, ça m'a donné ça.
Ok, ouais. C'est vraiment cool. Tu sais, j'ai battu objectif mantra. Ouais, je les ai toutes faites. Juste pour être sûr que j'ai pas skippé. Je sais pas pourquoi j'ai une phobie de skipper une lettre puis finalement être devant mon ordi puis dire « Ouais, on peut pas shooter ça une autre fois. Hein. » Ça, t'avais dit tantôt que t'avais comme arrêté un peu la cuisine, t'as fait un peu au jour puis t'es revenu à la cuisine.
Ouais.
C'est quoi que t'avais fait autre que la cuisine?
Ah mon Dieu! Quand j'ai arrêté la cuisine, j'ai travaillé dans un skate shop.
Okay.
Ça, c'était le fun. J'avais comme 26-27 ans puis j'ai comme renoué avec mon adolescence
ouais.
pour une avant-dernière fois peut-être.
Okay.
J'ai renoué une couple de fois dans ma vie avec mon adolescence.
Okay.
Quoi d'autre j'ai fait dans la vie? J'ai travaillé dans une firme de sondage pendant un bout.
Ah, ouais.
C'est shout-out à tout le monde au Centre de recherche contemporaine. Avec qui j'ai travaillé. C'était okay. quand même vraiment le fun.
Ah ouais?
Puis, ouais, puis, mais c'était bizarre quand j'ai arrêté de cuisiner. Personne voulait m'engager. Tout le monde me disait, ben, t'es cuisinier dans
ouais,
la vie, pourquoi
ça.
Tu restes pas en cuisine? Parce
ouais.
que je veux plus être cuisinier,
ah,
tu sais.
Ouais, hein?
Mais, fait que finalement, le métier m'a comme un peu replongé là-dedans. En fait, j'ai recommencé à travailler au Misto parce que une de mes amies sortait avec le gérant
okay.
et elle m'a dit je pense que j'étais prête à me réessayer voir si j'avais goût de recommencer. Puis elle m'a dit moi je pense place là c'est pour toi.
Okay.
Elle dit en plus tu sais quand je t'avais passé l'entrevue ils me l'ont dit, ils ont dit si tu sais on veut pas payer l'overtime fait que tu vas faire maximum 45 heures semaine.
Nice.
Après ça non c'était ils traitaient bien les employés.
Ouais.
Puis quand j'ai commencé Bob le chef peut-être comme 2 ans après avoir commençait là, le propriétaire de l'époque, il était vraiment down avec ça. Lui,
okay.
je pense qu'il voyait quelque chose là, qui
okay.
pouvait peut-être évoluer avec le restaurant
okay.
un peu. Puis écoute, il a tout le temps tout fait là,
ouais.
Que j'ai un horaire flexible pour...
C'est
fait que ouais, non, c'était cool tout ça.
C'est vraiment cool. Puis tu sais, tu parlais que t'étais pas entrepreneur. Puis on l'a vu avec tes objectifs de
ouais.
vie. Tu sais, pas besoin du manoir, tu sais, puis tout ça. Mais tu fais que t'as beaucoup de projets pareil.
Oui,
c'est ça qui est ça.
C'est,
puis ça, c'est une fibre entrepreneuriale, mettons.
Puis ça se peut. Peut-être j'allais un peu plus que je pense.
Ouais.
Mais tu sais, je suis bien entouré au travail de tout ça. Ça, c'est,
ouais.
c'est très important. Écoute, je suis chanceux, je fais en ce moment. J'anime 3 shows de TV en ce moment.
OK.
Arrive en campagne, qui est comme mon gros show à TVA.
Ouais.
En fait, je remplace Stéphano.
OK.
Il a fait ce show-là pendant 5 ans. Moi, je suis rendu à ma 4e saison.
OK.
C'est une émission où j'amène des gens de la ville. Des gens de la ville, c'est pas nécessairement Montréal.
Ouais.
Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières.
Ouais.
Des gens qui n'ont pas d'expérience en agriculture.
Ouais.
Puis je les amène sur une ferme. passer un week-end et ils vivent 100% l'expérience de l'agriculteur. Mm-hmm. Puis écoute, on fait des fermes d'élevage de porc, d'élevage de bœuf, des fermes laitières. Moi, j'adore les fermes laitières. Okay. Ça, c'est tout le temps mes préférés. Ou les bœufs aussi, c'est des gros animaux gentils que tu peux flatter. Puis c'est impressionnant de promener d'un troupeau. Tu sais, justement, je suis allé en Abitibi il y a peut-être un mois, là, de ça, tourner d'une des grosses fermes de bœuf bio au Québec.
Ouais.
Et c'était hallucinant de me promener dans un champ avec 70 bouvillons.
Oh,
et ils se tassent tout. Tu sais, s'ouvrent pour tout. Puis ils te regardent. Puis jamais qu'ils te chargent, jamais qu'ils sont agressifs. Ils sont très curieux. C'est spécial pour vrai. Puis écoute, on fait ça. On fait beaucoup de maraîchers, des vignobles. On fait de tout. C'est vraiment le fun. Puis sinon, j'anime avec Hugo Girard. Oui. Je pense que c'était lui il n'y a pas longtemps.
Ouais.
3-2-1 Barbecue, qui est une compétition de barbecue Zest, qui joue à Zest et TVA aussi.
Tu me fais penser à Barbecue Showdown, c'est-tu ça?
Ouais, un peu, exactement.
Ouais.
Et le dernier, dont le moindre, je participe à une émission qui s'appelle, je co-anime une émission qui s'appelle Pas de panique en cuisine. Puis ça, c'est un de mes shows préférés à faire. C'est une émission pour Ami Télé. Ami Télé, c'est un poste consacré aux non-voyants. Fait que c'est un poste avec de la description auditive.
Okay.
Et tu sais, quand t'es dans une chambre d'hôtel à 2h du matin, des fois avec un cocktail dans le nez, puis là tu tombes sur, Omerta, puis oh shit, c'est Omerta! Puis là tu te mets à Omerta, c'est une émission de mafia du début des années 2000, là, pour ceux qui savent pas, moi j'aimais beaucoup ça. Puis là, oh shit, c'est Omerta! Puis là, c'est comme, Paolo Noël sort son fusil, il ouvre la porte, comme, pourquoi que tu cherches le piton sur la télécommande pour comme arrêter ça?
Ouais.
Tu peux pas, ça vient avec le poste, ok? J'ai co-anime cette émission-là avec une femme extraordinaire qui s'appelle Véronique Vézina.
Okay.
Elle a perdu la vue quand elle avait 28 ans, si je me trompe pas. Elle était cuisinière.
Okay.
Puis elle a décidé, elle, que son objectif dans la vie, c'était d'apprendre aux non-voyants à cuisiner.
Okay.
Fait qu'on arrive avec des recettes beau, bon, pas cher, des techniques simples. Moi, je suis obligé de cuisiner une recette à l'aveugle, donc avec bandeau d'en face, pour vivre un peu la réalité de la chose.
Ouais.
Et écoute, au début, on va se dire... Je pense en fait c'est le premier show que j'ai vraiment co-animé par moi-même.
Ah ouais.
Avec une co-animatrice bien sûr, mais que j'étais pas chroniqueur à l'émission, c'est ça que je veux dire. Et j'étais pas super bon. Véro, c'était sa première expérience télé, fait qu'il était pas super à l'aise non plus. Et là on a fait 6 saisons.
Oh,
et écoute, on se taquine, on a du fun. À cette heure là, t'écoutes le show et ça n'a pas l'air d'un show pour non-voyants, ça a l'air d'un cool show de cuisine. Puis je suis vraiment fier de ce projet-là.
Hein,
c'est quelque chose que je trippe à faire. Puis l'équipe avec laquelle je fais, c'est la même équipe depuis 6 ans. C'est une équipe absolument géniale. C'est des professionnels de la télé. Là. Ils savent vraiment ce qu'ils font.
Ouais.
Fait que c'est. Puis il a fallu aussi que j'apprenne tout le langage du non-voyant. Faut que j'explique tout ce que je fais au moment où je le fais.
Demandant ça au début.
Non, c'est vraiment le fun.
Ah, c'est hot. Puis je me demandais, tu sais. On dirait que souvent, moi j'ai reçu plein d'entrepreneurs, puis c'est tout le temps les entrepreneurs, je dirais, d'entreprises classiques.
Ouais.
Tu sais, tu prends un produit, ils vendent ce produit-là. Toi, t'es entrepreneur, je vais dire du web.
Ouais.
Fait qu'il y a beaucoup de c'est ton following qui vient driver, tu sais, beaucoup des choses que tu fais. Puis là, t'as parti tes 20, qu'on va parler. C'est quoi, ça peut ressembler à quoi des sources de revenus d'un entrepreneur du web, tu sais?
Mes sources, ils viennent, tu sais, je pourrais. Avant je disais ça, mais je pense que je pourrais arriver avec juste la télé, mettons. Là, mais tu sais, je reçois, mettons, des chèques de TV, des chèques de redevances pour le vin. Après ça, je reçois
ton blog. Est-ce que ton blog?
Oui, c'est vrai, ça donne un revenu. Le site web est vraiment en feu. Ben écoute, moi on a vraiment, depuis la pandémie, on l'entretient. Des articles. Il y a vraiment une section blog où je blogue tous mes voyages, les restos que j'aime. Moi, je suis pas une critique culinaire. Si j'aime pas ça, j'en parle pas, mais si j'aime ça, puis je trouve que ça vaut la peine d'en parler. Je vais être le premier à vouloir te donner un coup de main puis crier haut et fort que j'aime ton spot. Fait que non, c'est ça. Ça vient un peu partout, les sources de revenus. Okay. Un peu de radio, travail, tout ça.
Ouais.
Des festivals que je vais faire aussi.
Ouais.
C'est quand même payant faire des démonstrations en public. Ouais. Fait que...
Puis quand tu vois, mettons, les gars sur TikTok là, qui font ils stackent des millions de vues sur des recettes, tu sais, est-ce que ça te donne une idée de comme, hey, moi aussi, je veux faire ça ou c'est pas de quoi qui t'intéresse vraiment? Ou...
J'ai essayé de faire du TikTok pendant un bout. C'est très demandant.
Ouais,
hein? Y a beaucoup de gens qui chient souvent ces influenceurs puis qui disent...
Ah, c'est facile.
C'est vraiment pas facile. Il y a un stress de création. Il faut que tu respectes l'algorithme.
Ouais.
Je disais, pour pogner ce TikTok, faut que ça, c'est comme une vidéo deux jours, je pense. Moi, j'ai pas le temps de faire une vidéo deux jours. Puis si je fais quelque chose, je veux que ça soit bien fait. J'ai pas le goût de faire quelque chose juste pour le faire.
Ouais.
Puis à un moment donné, je pense que j'avais l'impression que c'est ça qui est en train de se passer.
Okay.
Puis j'étais juste comme, ouais, ça me tente plus.
Okay.
Tu sais, c'est... Puis aussi, à un moment donné, tu sais, je vais avoir 47 ans jeudi prochain.
Okay.
C'est... Je peux laisser quelque chose aux autres. À un moment donné, tu sais, j'ai en masse de mes affaires vont bien. Ouais, je vois pas pourquoi je me mettrais de la pression de plus là, pour faire ça.
Puis tes vins, comment ça l'a parti, ça? C'est-tu toi qui étais fan de vin puis tu t'es dit je veux un vin?
Je suis un grand fan de vin.
Okay.
Ça a commencé un peu avant la pandémie. On a commencé à développer ça en 2019. En fait, c'est très drôle. Il y a un gars qui m'a écrit sur Instagram. Puis grosso modo, c'était juste comme ça tente-tu de faire du vin? Faut que je me mouche.
Vas-y.
Excusez-moi pour l'audio. J'ai le rhume des foins cet été.
Voici Bob qui se mouche dans le micro. C'est un peu du ASMR.
Bon, fait qu'en 2019, c'est ça, il y a un gars qui m'a écrit, puis bref, t'es comme, t'as-tu goût de faire du vin? Puis j'étais comme, faire du vin dans ton garage, tu sais.
Ouais,
où tu veux faire du vin? Fait que j'ai comme envoyé ça à mon agent, mon partner Alexis. Puis lui, il me rappelle deux semaines plus tard, avec comme, Chris, une chance, tu m'as filé le numéro du gars. Je veux dire, c'est comme une des grosses compagnies d'embouteillage au Canada.
Mm.
Puis ils veulent faire une collabo avec toi. Puis je les ai rencontrés. Puis. Je vais t'admettre, on avait flirté avec l'idée de faire un produit d'épicerie. On s'était fait offrir des affaires à gauche et à droite, mais rien qui fitait avec l'ADN de Bob le Chef.
Ouais.
Tu sais, je voulais que ça reflète vraiment moi, le produit. Puis écoute, moi, j'aime boire du vin. Mm-hmm. Puis c'est quelque chose, mes dernières années de chef, je me suis vraiment intéressé à ça. J'ai une petite cave à vin chez nous. Il y a peut-être 40 bouteilles dedans. Là, faut pas virer fou.
Puis aussi, je pense que tu as arrêté de boire de la bière, hein, je pense.
J'en bois encore, mais très modéré, ça me gonfle.
Okay,
en fait, je peux plus en boire comme je faisais avant professionnellement, c'est fini ce temps-là. Mais tu sais, l'été, quand il fait chaud, tu sais, une petite frette sur le balcon, mais maximum une.
Okay,
c'est
plus
mon cas. Ouais, je suis beaucoup plus dans le vin, ça m'intéresse beaucoup. Il y a de la géographie, il y a beaucoup d'histoire là-dedans, fait que j'aime bien ça. Puis on les a rencontrés, les gars. C'est la compagnie qui s'appelle Station 22.
Okay.
Et les gars sont absolument géniaux, gars et filles. Là, on intègre tout le monde. Dans ça.
Toute la team.
La gang.
T'as-tu vu le sketch, man, de. Ah, c'est quoi cette émission-là déjà qui sont genre. Tu sais, c'est toute une émission à sketch, là, puis ils sont genre. Ah, la gang. C'est comme, pourquoi t'as appelé ça la gang? C'est sexiste. T'as-tu vu ce sketch-là?
Non.
Ah, man, faut t'aller voir ça. Tu sais, t'as retrouvé,
c'est
drôle.
C'est Arnaud Soli avec.
C'est un sketch télé, en tout cas, man.
Okay.
Si les gens vous pensez, vous savez comment c'est drôle.
Envoyez-nous le lien, s'il vous plaît.
Exact.
Ouais, ouais. Mais bref, tu sais, je vais inclure tout le monde là, parce que toute la gang est géniale à Station 22. Et quand je les ai rencontrés, c'était vraiment qu'est-ce que toi tu veux faire, Bob? Puis je suis comme, shit, OK, ben moi je veux faire un. Moi, comment j'avais vu ça?
Ouais.
Puis je suis arrivé vraiment, ben moi je voudrais faire un Pinot Noir, un Chardonnay, puis un Cabernet Sauvignon. Parce que le Pinot Noir, puis le Chardonnay, ça se boit bien. Quand tu prépares ta bouffe, puis avec une grosse viande, une bonne grillade, t'as besoin de quelque chose d'un peu plus costaud. Fait que tu vas avoir de quoi de. Tu sais, comme ça, je trouve que t'as une belle gamme complète, là, notre. Puis les gars, comme vendu, man. Puis après ça, c'est quoi? Comment tu voudrais appeler le vin? Puis on est arrivé avec un paquet d'idées de noms. Puis il y en a qui étaient. Il y avait déjà des brevets dessus qu'on pouvait pas prendre. Puis fait qu'on était comme Chris, on est quand même sur une bonne voie. Si quelqu'un d'autre y a passé. Puis la première gamme qui existe encore en épicerie, c'est bout en train.
Okay.
Le bout en train. Ce qui fait que c'est un bon vin aussi. Souvent, les vins... tous les vins d'épicerie, il y a une loi qui... T'as pas le droit de mettre la région d'origine sur le vin.
Okay.
Tu peux mettre le pays, tu peux mettre le cépage, mais tu peux pas mettre la région. Fait que ce qui arrive, souvent, tu vas acheter un Cabernet Sauvignon d'Italie, tu vas avoir des raisins Cabernet de partout de l'Italie, puis ils créent ça dans une cuve, ils roulent les dés, puis ils espèrent pour le mieux.
Okay.
Moi, la Station 22, ils font vraiment vraiment faire avec des réseaux de vignobles. Okay. Fait que si moi on trouve un vignoble qui est capable de produire assez de chardonnay pour ce que moi je veux, ben puis il est bon à notre goût. Fait que ils nous ont proposé, je pense, 6 chardos, 12 pinots, puis le cabernet, il en avait beaucoup. Bref, on a pris une bonne brosse, puis par processus d'élimination, on est arrivé à décider collectivement ce qu'on voulait mettre dans les bouteilles. Puis écoute, ça a eu un succès monstre. Ah, vraiment. Hein? Je m'en cache pas. On frise la plupart des mois. En moyenne, on est autour de 25 000 bouteilles par mois. Hein? Fait qu'on est vraiment fiers de ça. Puis moi, je pense que c'est un vin qui est abordable. Il est souvent spéciaux. Il est facile à trouver. Il est dans 2500 points de vente. Puis écoute, il est bon. T'sais, c'est un beau produit. Fait qu'ils ont décidé d'y aller. Puis je t'en ai amené 2 bouteilles aujourd'hui. Ça, c'est le petit nouveau.
Okay.
Puis c'est plus à saveur estivale, mais on le sait qu'au Québec, on fait du barbecue 12 mois par année. Ouais. Fait qu'il va être encore là tout l'hiver. C'est le barbecue à Bob. On a le Pinot Grigio qui est bon avec poisson, légumes, puis tout ce qui est préparatif du grill. Donc pendant que tu chauffes tes briquettes, mets ça dans le congé, une petite demi-heure avant de le boire, ça va être super bon. Puis un Cabernet Merlot. Qui est vraiment un vin tout terrain. Okay. C'est vraiment le fun. Tu peux boire ça avec des grillades. Mais cet hiver, je me suis retrouvé parce qu'on en reçoit des bouteilles avant qu'ils sortent en épicerie. Puis écoute, j'ai bu une caisse promo cet hiver. C'est un bon petit vin qui se boit tout seul. Puis même si c'est un rouge, la part des rouges, tu veux tout le temps mettre un petit 20 minutes au frigo avant les servir. Ouais. Question là de qu'il soit pas trop chaud. Okay. C'est pas agréable, un vin chaud.
Puis comment ça fonctionne le deal, avant de parler de ça, je voulais juste savoir, je voulais te dire, si, tu sais, des fois, quand il y a des gens qui mettent leur nom sur un produit, ça marche, mettons, 2 mois, puis si c'est pas bon, ça s'arrête.
Ouais.
Tu sais, mais si tu continues à en vendre autant chaque mois, c'est clairement parce que le monde aime ça.
Écoute, les commentaires sont là. Je reçois des courriels, des messages privés sur tous les médias sociaux. Mm-hmm. Le monde y aime le barbecue à Bob, y aime le bout en train. Le bout en train, c'est vraiment, je pense, devenu quasiment une habitude de consommation. Les gens le mettent dans le panier. C'est le vin. Puis tu sais, on est vraiment fiers là, de ce projet-là.
Puis comment ça marche? Est-ce que vous avez dit c'est 50-50, c'est une méthode d'avance?
C'est compliqué. La SAQ, c'est eux qui chapeautent tout ce beau projet.
Ouais.
Fait que c'est eux qu'on split l'argent avec eux autres, les embouteilleurs, les épiceries, et il y a nous autres à la fin de la chaîne. Mais ceci étant dit, c'est pas des millions, mais ça paye le loyer, puis on est vraiment... Vrai. Moi, je suis vraiment content. Tu sais, ça donne aussi l'idée de peut-être... développer d'autres produits. On dirait que ça m'a comme donné... Tu sais, tantôt, je disais que je n'étais pas entrepreneur. Oubliez tout ça. je vais conquérir le monde.
Il est au cash,
mais, non, mais on a peut-être d'autres idées de projets à venir. C'est encore très embryonnaire, fait qu'on n'en parle pas. Mais qui sait? Il y aura peut-être une gamme un jour à l'épicerie. Là.
Très hot. Ouais. Parce que j'ai reçu Geneviève de Sushi à la maison.
Oui.
Puis elle en a maudit les produits. Je pense que c'est comme la face d'IGA, côté poisson. Je trouvais ça hot, c'est ce business model-là de juste dire, genre, je conquéris la poissonnerie. Je trouve ça quand même cool. Vraiment nice. Je pense qu'on est rendu au dernier segment de mon podcast que je fais avec toutes mes invités.
Okay.
C'est 3 questions un peu plus interactives.
C'est-tu des jambes, là?
Non, c'est correct, pas c'est cool. Ce que j'espère que... Check, je vais les mettre dans ma shot.
De chaque côté.
De chaque côté.
Le logo.
Exact. C'est qu'on est bon. OK. Donc, la première question s'appelle la question parfaite. Si tu pouvais t'asseoir avec 3 personnalités, morts, vivants, pour une soirée, ça serait qui?
Wow, ça c'est fou. Mort ou vivant?
Ouais, n'importe qui. Oh, tu pourrais dire déjà.
3 personnes. Chris, 3 personnes, c'est beaucoup. Il faut pas tout en même temps, par exemple. Je dirais savourer.
Mettons que tu peux faire 3 soupers.
Michael Jordan.
All right.
Yo, c'est Michael Jordan. Ouais. Je suis un fan de basket.
Okay.
C'est certain que. Ouais, ouais c'est. Ouais. Sinon, mon Dieu. Qui c'est que j'aimerais. J'aimerais je lance l'invitation à Igor Brotteau, mon prof à l'ITHQ. Okay. On se dit tout le temps qu'on va souper ensemble, qu'on va aller à la pêche ensemble, puis on n'a juste pas le temps de le faire. Et c'est mon mentor ultime. Là. C'est le peu de rigueur que j'ai dans la vie, mm-hmm. c'est Igor qui m'a l'a donné. Je sais pas s'il savait, là, mais c'est vrai. Puis c'est un Christ de bon gars. Puis c'est, y a une belle histoire là, parce que. On était sa première cohorte quand il est arrivé de l'Europe, puis il s'est mis à enseigner à l'Institut de tourisme d'hôtellerie du Québec. Mm-hmm. Puis il était on l'appelait Igor le terrible. Okay. C'était un torsionnaire, pour vrai. Il m'a déjà donné un coup de pied de cap d'acier dans les tibias, puis j'ai brûlé ma sauce tomate.
Okay.
Mais ceci étant dit, on est devenus des Christy de bon chum. Ouais. Et quand je passe à l'ITHQ, j'essaie tout le temps d'aller le voir dans sa classe ou aller passer à son bureau, le taquiner un peu.
Ben, let's go pour voir le souper.
Ouais, il faut faire ça. Et,
une dernière personne
avec qui j'aimerais aller souper. Waouh, si je suis tellement. J'étais excité, j'ai comme le choix de tellement de monde. En fait, je vais aller pour un groupe. Okay. Je pense que j'aimerais souper avec les Beatles.
Oh, ouais. C'est la première fois que quelqu'un dit ça.
On pourrait aller au nouveau magasin de champignons magiques. Là, puis ça pourrait être une soirée sympathique.
Très hot. Ouais, ça va être trois méga soirées.
Ouais, mais ça.
Ok, donc j'ai des questions rapides. Tu réponds le plus rapidement possible.
Ouais, okay. Je suis pas bon dans les affaires rapides, comme vous avez pu voir.
Ton projet le plus marquant?
Bob le chef.
Le plus bel achat de ta vie.
Ah, j'ose pas le dire. Je suis gêné. Ouais, mais décapotable.
C'est hot, man.
Ouais,
c'est
je l'assume
cool.
pas, on
non,
dirait.
Mais c'est
non.
hot, là.
C'est...
man, avec la musique, tout. Un rêve secret.
Un rêve secret? Ah, j'aimerais ça en Corée du Sud avec ma blonde.
Ah, nice.
Ouais, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire.
Vraiment cool. Ta meilleure habitude de vie?
Le jogging.
Ah ouais?
Ouais, je cours beaucoup dans la vie. Puis ça, même quand je faisais la fête, une espèce de yin et yang, qui me donnait une stabilité. Puis je le fais encore. Je le fais peut-être un petit peu moins. Okay. J'ai déjà couru un marathon, mais ça va faire 10 ans là-dessus. Okay. J'aimerais ça en faire un autre, fait que voudrais-je m'y mettre. Là.
Très cool. Dans la section under ou overrated. Okay. Fait que tu me dis si quelque chose est underrated, ça veut dire que les gens, ils trouvent ça pas assez cool.
Ouais.
Mac and cheese.
Overrated.
Ricardo.
Ricardo, il est juste cool.
Il est juste cool.
Il est juste cool. Point. Ah, il est en plein centre.
Ouais. Du popcorn.
Ah, moi, j'aime ça du popcorn. Underrated.
Drake.
Ah, je l'aime, Drake. Mm. Mais tu sais, il est sa ligne. Là. Il est comme Ricardo. Il est pas underrated. Là.
Non,
je
veux
dire, Chris, il pourrait acheter à la ville.
la boxe.
Ah, la boxe, j'adore ça, man. Moi, je suis beaucoup plus boxe que mixed martial arts.
Moi aussi,
Il y a un art dans la boxe que j'aime beaucoup. Là. C'est underrated, absolument.
TikTok?
Ah, ça me dérange pas. C'est ni un ni l'autre.
Properly rated, Le Canadien de Montréal.
Ah, man, ils font pitié ces temps-ci.
Ouais, c'est un peu overrated. Hein?
Ils perdent leur lustre. Hein? Cette année, ils commençaient à faire des spéciaux pour les cégepiens, les universitaires.
Ah, oui,
que je pense que c'est comme 50$ le billet, puis t'as un hot dog gratuit ou une bière gratuite si t'es adulte.
Ça fait du sens, là, à un moment donné. Tu peux pas perdre chaque game puis dire non, c'est 150$.
On n'a pas gagné depuis 1993. Ouais, ça fait 30 ans de ça. Okay? Il y a une génération complète qui ne savent pas.
Ah, moi, je sais pas.
Ben, c'est ça.
J'ai jamais vu Canadien gagner.
Pas... Bon, c'est ça. Ouais. C'est terrible, là, je veux dire. Fait que t'as pas cette espèce d'appartenance à une
dynastie.
Puis tu sais, il y a beaucoup d'autres choses qui se développent. Tu sais, moi, je suis allé voir justement, on a un club de basket à Star à Montréal.
Oui, l'Alliance.
L'Alliance, justement. Il y a le club de soccer. Tu sais, c'est des belles sorties qui sont bien moins dispendieuses. La dernière fois, je suis allé voir le Canadien. On s'était assis dans les rouges parce que j'ai un ami qui vient de l'Europe qui ça faisait 20 ans qu'il n'était pas venu au Canada. Puis on s'est dit, gars, il va aller au Canadien. Disons, on ne l'amènera pas à assis dans les bleachers. On s'achetait des billets dans les rouges. Ils ont acheté d'un scalper. Et c'est gênant à dire, mais ça a coûté 700$ à aller au hockey pour trois billets. Puis c'était contre Vancouver. Puis c'était quand même un esti de match plate. C'est ça. Mais habituellement, quand je joue au Canadien, j'étais assis en haut avec tout le monde. C'est une exception.
La télé.
La télé? Ah, c'est underrated. Le monde, ils disent tout que la TV est morte, mais le monde ne font que parler de la télé sur Internet. Fait que c'est,
j'aime ça. Les couteaux japonais, c'est le chef.
Overrated. Les couteaux allemands, c'est les tops.
Ah selon, ouais, hein? Ouais, la radio.
La radio, c'est bien correct. La radio, c'est le seul médium qui a comme pas été affecté par le web, j'ai l'impression. Ils surfent la vague, là.
Ouais. Ben, j'aime ça. Merci, Bob.
Yo, merci à toi.
C'était vraiment cool. Dans les commentaires, je vais mettre le lien pour ton vin.
Parfait.
Le lien de ton site web.
Oui.
Allez voir ça si vous voulez du bon vin. Allez voir ça. Puis, y a-tu quelque chose d'autre que tu veux plugger, que tu veux parler avant qu'on finisse ça?
J'aime ma blonde, puis j'aime mon fils.
Puis il faut vraiment que je le dise. Ma blonde est complètement fan de ta blonde. Fait qu'il fallait que je le dise. Très cool. Fait que merci, Bob.
Un gros plaisir, man. C'était vraiment le fun. Pour vrai. Yeah, merci.
Merci.